Vous écoutez Radio Pleine Lune, une émission sur des histoires de grandes chanteuses d'opéra. C'était Maria Cebotari qui chantait et maintenant on va passer à une chanteuse avec une voix beaucoup plus grave, aussi plus chaude, qui chante tout à fait un autre répertoire. C'est la voix de Kathleen Ferrier, qui elle aussi est morte très jeune et qui a fait ses enregistrements à la fin de sa vie. Voilà, c'est Kathleen Ferrier. Qu'on a entendu. Maintenant encore de Kathleen Ferrier, par Kathleen Ferrier, un air très Lagnus Dei, très d'une messe en si de Bach. Thank you. Voilà, c'était une note un peu triste, un peu en dehors d'ailleurs de l'histoire de l'opéra, mais je voulais aussi faire l'histoire des grandes chanteuses, des divas, et je trouve que Kathleen Ferrier a une voix magnifique, même si sa voix grave est mieux faite pour des rôles qui sont plutôt en dehors de l'opéra. Alors après ce petit ton, ce petit moment triste, je vous propose d'écouter une chanteuse, une autre chanteuse qui est morte aussi, mais que je pense vous connaissez tous, c'est la Maria Callas. Tout le monde a entendu ce nom. Ça a été une très 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 grande diva. Elle a fait parler des livres entiers, des émissions de radio entières. Des hommes ont écrit sur elle. Et je veux lire deux, trois choses qui ont été écrites sur elle et vous faire écouter aussi sa voix. Avant de vous parler de Callas, je voulais vous raconter un petit peu comment, au début du siècle, on parlait de ces femmes, même à la fin du siècle passé d'ailleurs, comment on parlait de ces femmes fantastiques qui fascinaient tellement les hommes surtout. Le type de ces voix de soprano, pleines et retentissantes, douces et fortes, capables de dominer les chœurs et l'orchestre, et pouvant s'éteindre jusqu'au murmure le plus affaibli de la passion timide, de la crainte ou de la rêverie. Cette femme, il parle ici de Caroline Branchu, qui est une prima donna, bien sûr, femme vedette de la fin du 19e siècle. Donc, on n'a pas d'enregistrement, on a seulement des textes qui parlent d'elle. Cette femme n'a jamais été remplacée. À ses qualités éminentes, Madame Branchu joignait encore celle d'une impétuosité irrésistible dans les scènes d'élan et une facilité d'émission de voix qui ne l'obligeait jamais à ralentir hors de propos les mouvements ou à ajouter des temps à la mesure comme on le fait à tout propos aujourd'hui. En outre, Madame Branchu était une tragédienne de premier ordre, qualité indispensable pour remplir les grands rôles de femme écrits par Gluck et Spontini. Elle possédait l'entraînement, une sensibilité réelle, n'a jamais dû chercher des procédés pour les imiter. Elle n'était ni grande ni belle, mais elle m'a semblé quand même la tragédie lyrique incarnée. Son soprano, d'une puissance extraordinaire, se prêtait comme nul autre aux accents doux. Elle chantait le pianissimo d'une façon irréprochable qui tenait à l'extrême facilité d'émission de sa voix dans le médium. Et l'instant d'après, cette même voix remplissait de ses éclats la vaste salle de l'opéra et couvrait les plus violents tutis de l'orchestre. Ses yeux noirs lançaient des éclairs, elle se faisait illusion à elle-même. Une fois en scène, elle croyait fermement être Alceste, Clytemnestre, Iphigénie, la Vestale, donc tous les rôles qu'elle incarnait sur la scène. Alors, j'ai lu ce texte de Caroline Branchu parce que je le vois aussi tout à fait valable pour Maria Callas, qui a fait aussi, donc, dans ce siècle, parler d'elle énormément. Alors, je vous fais d'abord entendre d'elle. Des airs de Rigoletto. Elle chante là, malheureusement, aussi dans un très très vieux enregistrement qui est fait en direct. Il y a beaucoup de bruit du public et cet enregistrement me semble bien mauvais, quoiqu'il ait été fait en 58. Alors j'espère que ça passera à la radio. Autrement, j'en chercherai un autre plus écoutable.
Thank you.
m'excuse. En cours de route, je trouve vraiment que cet enregistrement est trop mauvais. Ce n'est pas le disque en soi, donc le disque n'est pas de qualité mauvaise, mais c'est l'enregistrement qui est malheureusement trop mauvais. Je le regrette beaucoup parce que c'était un grand air chanté par Callas et à la fin, il y avait pendant quelques secondes, je pense même quelques, au moins une minute, des applaudissements et des hurlements des gens dans la salle, et c'est ça que je voulais vous faire entendre. Alors, je vous passe un autre enregistrement, cette fois bien meilleur. C'est Callas qui chante le quatrième acte de Manon Lescaut. Alors, bien sûr, ici, malheureusement, elle n'est pas toute seule. Il y a aussi des chanteurs, des hommes qui sont d'ailleurs de très bons chanteurs. Et ça sera un peu mélangé, mais quand vous entendrez la Callas, vous la reconnaîtrez tout de suite. Donc Callas qui chante le quatrième acte de Manon Lescaut de Verdi.
Mamma, 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 m
avec ce petit aigu de la calasse, nous arrêtons ce disque. J'espère une autre fois de vous faire entendre d'autres disques. J'avais compté sur la rétrospective qui est composée de deux disques entiers, mais je ne comprends pas pourquoi le niveau de l'enregistrement est si mauvais. Alors pour la calasse, je veux vous lire un petit peu ce qu'on a écrit d'elle, sur elle. Bernard Gavotti, qui était critique, musicien, a écrit à peu près il y a 20 ans. Que ne puis-je, avec des mots, évoquer l'élan suave et pondéré de la voix d'or qui dessine l'arabesque et s'oppose au sommet, comme l'oiseau à la cime d'un arbre, rossignol enivré qui s'enchante lui-même en nous ravissant. Il est bien question de vaillance, de vocalise et d'acrobatie. Alors je reviens là, c'est un peu comme le courrier du cœur des grandes chanteuses. C'est peu dire que ce soir, la salle était vivante. Elle tressaillait, vibrait, réagissait avec une violence extrême. L'immense majorité des auditeurs étaient favorables à la diva. Mais certains, par principe, lui étaient hostiles. Et ils manifestaient chacun, à leur manière, les défaillances ou l'absolue perfection de sa voix. Pour ceux qui conçoivent l'art lyrique comme l'expression totale de l'être, comme une tragédie jouée et chantée, pour ceux qui n'acceptent qu'un trait de génie, il faut croire aussi aux instants de faiblesse et accepter les moments où Calas, avec des moments de faiblesse, suscitait les cris horribles de ses auditeurs. Encore pendant un enregistrement de Norma, voilà ce qu'il entendit, Monsieur Gavotti. C'est la calasse, donc c'est des gens qui parlent. Tiens, c'est vrai, il paraît qu'elle va jouer à l'opéra, une chose bizarre. Elle est terrible, j'ai lu dans un journal qu'elle avait giflé le président de la République italienne à Rome. Quand je rapportais ce délicieux échange de vues à Maria Callas, c'est à peine si elle tressaillit. Depuis le temps que je lis des choses semblables, j'ai renoncé au rectificatif qui aggrave les soupçons des lecteurs au lieu de les dissiper. Mais si vous y tenez absolument, je vais vous expliquer. Les choses ont été ici bêtement grossies, déformées. C'était en 57, donc c'est Callas qui parle. Je devais jouer Norma à l'Opéra de Rome en présence de M. Gronchi. Grippé, j'avais demandé qu'on prévoie une doublure, prenant ma demande pour un caprice. Ah, les caprices de la Callas, le directeur refuse. Le jour de la représentation, je souffre d'une laryngite et je suis aphone. Je lis brûlant de mots. Comme il arrive qu'un enrouement s'envole en chantant, j'essaye, nous verrons bien. Dès mon entrée en scène, mon courage reçoit sa récompense, une bordée de sifflets. Rome et Milan sont les deux sœurs ennemies. J'expie dans la ville éternelle mes trop longs succès dans la cité du bel canto. Imaginez ce que cela représente que de chanter Norma un jour où l'on est aphone devant une salle hostile. Après le premier acte, je décide d'arrêter les frais. Je veux bien me battre avec la foule à condition d'avoir tous mes moyens. Je demande qu'on présente mes excuses au public et particulièrement au président Gronchi. Dans l'annonce du régisseur, il n'est pas question d'excuses. On se borne à signaler que le spectacle est terminé. Et c'est l'émeute. Je gagne mon hôtel, protégé par des policiers, qui n'empêchent pas les clameurs de la foule de monter jusqu'à ma chambre. Le lendemain matin, les journaux titrent « C'est une gifle morale donnée au président de la République ». Dans les conversations de bouche à oreille, l'adjectif « moral » saute, et voilà comment j'ai giflé sur les deux joues le pacifique monsieur Gronchi. Naturellement, l'Opéra de Rome m'a fait un procès, il le perd. Je lui en fais un autre pour rupture abusive de contrat, car entre-temps j'avais demandé à reprendre mon rôle, mais cette fois on m'avait doublé. Ce procès-là, je viens de le gagner, c'est tout récent, les journaux ont annoncé la nouvelle. En bien petit caractère. Tant mieux, je n'ai jamais recherché la moindre publicité. Je chante, le public juge, ce qui n'a pas découragé de bons amis de faire courir d'agréables rumeurs sur les claques préposé aux applaudissements dans tous les théâtres où je me produis. Et là, pour eux, pas plus de claques que de gifles. Mais les légendes ont la vie dure et elles me survivront. Alors, maintenant, je pense que je vous laisse avec la classe et je continue avec une autre grande chanteuse, quoique elle ait moins fait parler d'elle. Elle est aussi italienne. Elle s'appelle Renata Tebaldi et elle va chanter La Bohème de Puccini, l'air de Mimi. c'était Renata Tebaldi, qui, comme on dit, la calasse, pour les amateurs de l'opéra qui savent très bien, on dit la Tebaldi. C'était aussi une diva, une grande femme de l'opéra. Elle a commencé en 1940 à peu près, à ses débuts dans la vraie opéra, et tout de suite, les journaux, la presse, les critiques ont parlé de la naissance d'une très grande chanteuse. Elle avait aussi commencé très petite, à 13 ans, elle chantait déjà. Et toute sa vie, elle a travaillé énormément, essayant, elle, un peu différente de la Callas, étant beaucoup plus discrète, mais avec une présence énorme sur la scène. Encore de la Renata Tebaldi, de Puccini, un air de Madame Butterfly. voilà, par exemple, cette fin de Madame Butterfly, c'était vraiment une fin typique de l'opéra. Renata Tebaldi est morte sur la scène. Elle a fait ses derniers hurlements amoureux et elle est morte après ces hurlements que vous avez entendus. Bon, c'était un peu un extrait un peu cherché loin, c'est-à-dire c'est rare quand même que dans l'opéra on doive autant se dépenser, mais comme vous avez entendu, il faut être une force de la nature incroyable pour pouvoir soutenir un rôle pareil. Et toutes ces grandes chanteuses, on ne sait pas très bien d'ailleurs où elles prenaient la force, elles en avaient énormément. Alors je vais encore vous lire un petit peu tout ce qu'on a pu écrire sur les prime donne cantatrices de l'opéra. L'image de la cantatrice offre la tentation d'une constante chasse au bonheur, comme le voulait Stendhal. Les prestiges poétiques conduisent à l'idolâtrie. Les démons romantiques et la fatalité entraînent vers des illusions perdues. Il arrive aussi que le rêve frémissant débouche sur une réalité banale. Il serait long de recenser tous les témoignages qui, du XVIIIe siècle à nos jours, ont fait de la prima donna un être d'exception, convoité, redouté, adoré, que la littérature et les arts se sont disputés au prix de solides et touchants malentendus. De cette naïve exaltation, de ces ferveurs émouvantes, restent quelques traces qui sont dignes de figurer dans une histoire de la sensibilité artistique. Ainsi, Ernesta Grisi, compagne de Théophile Gautier, magnifique voix de contralto dans La Donna del Lago, a inspiré un poème recueilli dans Aimons et Camées. Ainsi, Bonville a présenté des médaillons poétiques de quelques cantatrices, Adelina Patti, Pauline Viardot, passionnée, éloquente, farouche, frémissante de l'amour de Dieu. Christine Nilsson, image du Nord, sylphide idéale. La contrepartie méridionale existe avec le cheveu noir, les yeux ardents de flamme. C'est la figure de Galli mariée dans Carmen ou de Callas dans Médée. Poésie du Nord et poésie du Midi, ou plus simplement souci des contrastes, du complément, de la fusion harmonieuse par le prestige du chant d'éléments en apparence antagonistes. Dans cette quête de la beauté idéale, qui fut l'une des inspirations majeures du romantisme et de l'esprit humain tout entier, le personnage de la cantatrice remplit son rôle éminent dans la poétique illusion de l'art lyrique. La prima donna doit avoir de l'intelligence, un instinct poétique, le sens dramatique pour toucher le cœur, outre une technique irréprochable pour mériter son titre. C'est beaucoup et l'on peut se demander comment concilier cela avec une vie de femme. Mary a des paroles dures. Quand elles sont heureuses, les grandes cantatrices perdent leur voix. À 20 ans, Falcon. À 27 ans, Malibran, la divine. C'est ce qui peut leur arriver de plus heureux. La calomnie et la médisance n'ont pas eu le temps de surgir autour d'elles. Leur nom est pur et immortel. Une grande voix est celle qui sait s'élever au-dessus des misères quotidiennes et de la médiocrité, qui, plus qu'un souvenir passager, laisse une imprégnation profonde, comme un écrivain dont on quitte les livres à regret. Soit qu'elle exprime l'amour heureux dans sa simplicité et sa douceur, soit qu'elle dise le malheur, le désespoir et les faiblesses, soit qu'elle s'élève à la hauteur d'un rôle d'exception dans sa grandeur et son tragique. La cantatrice doit rester attachée à la vérité qui dénote sa nature profonde. Après ces beaux mots, voilà de nouveau une grande cantatrice, peut-être celle-là, un peu comme la Callas. Vous la connaissez, vous avez entendu son nom. C'est Montserrat Caballé. Elle est espagnole et est encore de nos jours une des plus grandes chanteuses d'opéra actuelle. Alors elle chante de la Cavalleria Rusticana de Mascagni. Voi lo sapete. Montserrat Caballé. Ah, excuse, non, je me suis trompée. Il chante de Verdi, c'est ça. Non, elle va chanter après ça. De Verdi, elle chante D'amor sull'ali rose, prix de Il Trovatore.
Hallelujah.